C'est l'histoire d'un vieil homme qui raconte l'histoire qu'il a vécue depuis ses 17 ans. Abdeslam est un ancien combattant marocain qui a participé à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre d'Indochine. Il avait été enrôlé de force en 1939, alors qu'il n'avait que 17 ans. En 1941, les Allemands le prennent comme prisonnier en auberge. Un jour, il s'est plaint à un officier allemand qu'il avait froid, et vu la cruauté de l'officier, il prit un charbon très enflammé et lui brûla la main. En traversant la rivière en Indochine, sur le front allemand, alors qu'il ne savait pas nager, il a failli perdre la vie. Il prit le dessus sur sa peur et s'en sortit sain et sauf. Il rend son uniforme en 1954 et revient à Taza. En 1956, les pensions des soldats africains sont gelées et ne seront décristallisées qu'en 2006, alors que pour les soldats français, les pensions restent en augmentation. Il arrive à Dreux en 2004 pour avoir droit à sa retraite. Il était obligatoire d'être en France 9 mois par an. Et le sentiment de solitude s'empare de lui et retourne au Maroc en 2010.
Il en être la Bidi le Diayer, récit de vie d'Abdeslam et le péché, paru en 2014 chez Futuropolis. Alain Birek, né en 1965, est photographe installé à Dreux. Il a rencontré Abdeslam et le péché en 2008 dans le cadre d'un reportage photo d'un foyer qui accueille de nombreux anciens combattants marocains.
Piero Macola, né en 1976 en Italie, vit à Venise. Il a réalisé des illustrations pour l'édition Jeunesse et a assuré les lettrages de plusieurs adaptations de Jess Casterman. En 2005, il publia L'air simple et en 2010, Paris des Rives, qui adopte déjà le travail au crayon de couleur que l'on retrouve dans les tirailleurs. À l'été 2017, Paris Kérosène, nouvelle bande dessinée, reportage sur le camp de Manouche, des mondes de Marsan et issue d'une nouvelle collaboration entre Boujac et Mancola.
Alors, toi, tu es même élève à l'UPE2A au lycée de Seine, en seconde 12. Je viens d'Algérie. Et j'aimerais adresser quelques questions pour M. Alain Bujac et M. Piero Macola. Alors, la première question, dédiée pour M. Alain Bujac. Est-ce que la population française est-elle consciente des sacrifices endurés par ces militaires, dont beaucoup sont morts pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale?
C'est la première fois qu'on me pose cette question. Je suis pas convaincu. Je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui a entendu parler des tirailleurs, notamment parce qu'il y a quelques années, il y avait un film là, qui a eu un peu de succès, qui s'appelait Indigène. Donc ça a sensibilisé un peu l'opinion. Mais de là vraiment connaître l'histoire des tirailleurs, notamment sous la Seconde Guerre mondiale, et ensuite le traitement qu'ils ont eu par rapport à leur vieillesse, je crois que pas beaucoup de gens le connaissent, en fin de compte.
Je m'appelle Wala Kondjari, j'ai 16 ans, j'habite à Beaulois, je suis tunisienne, je suis dans la classe de seconde 7. Et la première question c'est, avez-vous rencontré d'autres anciens combattants?
Oui, parce qu'au foyer Sonacotra, ils étaient 6 ou 7 de la génération d'Abslen. Donc plusieurs sont rentrés, d'autres sont décédés, parfois tout seuls dans leur chambre, dans ce foyer. Mais j'avais rencontré un peu ses copains. Mais tu sais qu'il y avait aussi dans les tirailleurs, bon, il y avait beaucoup de Marocains, mais beaucoup de Tunisiens aussi. Pour un peu, tu as peut-être un grand-père qui a été tirailleur.
Je m'appelle Shao Feng, je suis étudiant, je viens de Chine, j'ai 17 ans. J'ai une question sur le livre. Pourquoi vous choisissez Abdeslam et il histoire?
Bah quand j'ai rencontré Abdeslam, il y a un petit quelque chose qui s'est passé entre nous. C'est-à-dire qu'il y a des fois, voilà, il y a un feeling qui se crée entre des personnes, et là, on s'est super bien entendu. Faut dire que c'est un grand-père qui était, parce qu'aujourd'hui il est certainement décédé, mais qui était vraiment très très attachant. S'il était ici avec nous, je pense que tous vous seriez tombés sous le charme et avoir envie de parler avec lui. Et puis du coup, voilà, cette affinité qu'il y a eu fait que les entretiens, je les ai menés avec lui, et après il me racontait toute l'histoire de sa vie.
Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire d'Abdeslam?
Eh ben, c'est une histoire qui est très forte, parce que à travers lui on comprend beaucoup de choses qui ont pu être vécues par les soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire qui n'est pas forcément racontée dans les manuels, dans les livres. Elle est un petit peu occultée, donc ça permet d'amener un peu un éclairage, voilà, sur tous ces soldats qui ont combattu un petit peu dans l'ombre, quoi, que la nation a un petit peu oublié, sans doute volontairement. À côté de cet aspect un peu historique, il y a l'histoire de cet homme. Et moi, j'ai été très surpris, c'est presque une leçon de sagesse qu'il nous donne, de la faculté qu'il a eue d'accepter un destin qu'il n'avait pas choisi. Vous avez lu son histoire, hein, à peu près à vos âges. Il a été, on peut parler quasiment d'un rapt, hein, par l'armée. Il a été emmené loin de sa famille. Il n'a pas dû trop comprendre ce qui se passait. Quelques mois après, il s'est retrouvé en France, dans un pays qu'il ne connaissait pas. A porté un uniforme, on lui dit qu'il faut aller faire la guerre, il savait à peine pour qui il fallait faire la guerre et contre qui il fallait la faire. Et puis dans tout ce qui lui est arrivé, il a toujours eu un repère qui était sa dignité à lui. Et ça, je trouve que c'est très fort, quoi. Moi, je pense souvent à lui, à des petits mots, et ça guide un peu. C'est un peu le grand-père idéal, quoi.
Je m'appelle Stéphane, j'ai 17 ans et je suis élève au lycée d'Essène. Je suis arrivé en France le 24 septembre et j'ai une question pour monsieur Piero Macola. C'était pour la première fois que je lisais une BD. Pourquoi avez-vous choisi les couleurs pour vos dessins? On a remarqué que le bleu et le rose n'étaient utilisés que pour les chandails que porte Abdeslam.
C'est alors pour l'histoire du chandail, c'est que c'était dans le texte qu'avait écrit Alain qu'à un moment il parlait de son pull rose, et ça m'avait marqué parce que voilà, ce vieux monsieur qui racontait qu'il va acheter, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils allaient acheter les vêtements un peu au marché, ou là où ça coûtait pas cher. Et ça m'avait marqué le fait qu'un vieux monsieur comme ça, il prenne un pull rose, et qu'au fond, ça, il s'habillait un peu avec ce qu'il trouvait. Et voilà, je trouvais que ça faisait un contraste avec toute l'ambiance du foyer, sa condition de vie et ce pull rose. Je trouvais que voilà, ça m'avait marqué. Parce que sinon, effectivement, dans les couleurs, je suis toujours dans des couleurs un peu éteintes, un peu beaucoup de gris, beaucoup de teintes de ce type, parce que ça me semblait que ces couleurs-là s'adaptaient à l'histoire, étaient les bonnes couleurs pour l'histoire. Et c'est vrai que du coup, dans cette page, je me suis dit, bon, là, on va rester dans ces ambiances un peu grisâtres, bleutées, mais on va mettre ce pull rose qui frappe un peu, qui détonne un peu, quoi. Alors, le bleu, comme ça, en fait, ce bleu-là, par contre, maintenant, je me souviens, c'est que là, moi, je suis allé visiter le foyer où Abdeslam vivait. Mais quand je suis allé avec Alain, Abdeslam était déjà parti. Mais j'étais allé voir sa chambre, qui était occupé par quelqu'un d'autre. Et le monsieur qui l'occupait à ce moment-là, il avait ce pull comme ça. C'est pour ça que j'avais... Et après, c'est aussi un peu une astuce de dessin. Si on est sur des teintes un peu délicates, comme ça, un peu éteintes, de gris, comme je disais, de beige clair, et on met une touche de couleur un peu plus vive, le regard est tout de suite attiré. Et donc, on se concentre sur le personnage. C'est un peu comme quand dans une photo, on a du flou autour, on a quelque chose qui n'est pas très net. Après, on a une mise au point, on a un élément de la photo qui est net. Et du coup, le regard se concentre là-dessus.
Le flou de dessin me met mal à l'aise, mais c'est intéressant de faire un parallèle avec la mémoire qui est floue.
Le flou du dessin, non.
Le flou du dessin hein, et le flou de la mémoire.
Oui. Ouais.
C'était sur la première page, dès le début, enfin, ce paysage-là un peu flottant.
Oui.
Voilà, sur sa première impression, c'était, je me permets de compléter. Il lit des BD à Chauvin, mais il avait du mal, ça le mettait mal à l'aise, ce flou.
Donc tu veux dire que si le dessin n'est pas net, c'est parce que sa mémoire, c'est quelque chose qui a un rapport aussi avec la mémoire du personnage et le fait qu'on parle de ses souvenirs et que peut-être tout n'est pas net. C'est ça, il y a un sentiment un peu comme ça. Non, je crois pas. Ça, je crois pas franchement que j'ai fait exprès à traiter de cette façon le dessin. Les bandes dessinées sont souvent dessinées avec un trait noir et le dessin est plus net, les visages sont plus précis comme ça. Quand j'ai commencé à faire la bande dessinée, j'utilisais aussi un trait à l'encre noire comme ça. Et après, j'ai eu envie d'essayer d'autres choses. Je dirais que maintenant, quand même, en bande dessinée, on fait plein de choses différentes. Il y a des choses qui s'approchent plus de la peinture, d'autres plus du graphisme, d'autres bande dessinée traditionnelle. C'est vrai que le rendu de cette technique est un peu flou. C'est qu'il y a, je trouve, ça a peut-être des avantages, parce que parfois on aimerait davantage de netteté ou de précision dans certains visages. Et il y a des avantages d'un autre côté qui sont peut-être celles d'avoir des lumières plus subtiles, certains paysages qui ont un effet un peu plus évocateur plutôt que quelque chose de vraiment dessiné net. Voilà. C'est un choix. Et je comprends ce que tu dis. Ouais.
J'ai une deuxième question pour M. Pierrot Makola. J'ai vu que ce n'était pas pour la première fois que vous utilisez les crayons de couleur sur une BD. Pourquoi choisir cette couleur? Est-ce qu'avant vous faisiez plus comme Emmanuel Guibert?
Avant, moi, effectivement, je venais et j'avais toujours fait des dessins plus au trait, avec un trait noir, un contour, et après avec un rendu qui était très différent. Et comme je n'étais pas très contente de mon trait, justement, je me suis dit, je vais essayer d'enlever ce trait et de dessiner que par des volumes de couleurs, des masses de couleurs. Et j'ai, un peu par hasard, j'ai commencé à tester le crayon de couleur un petit peu parce que, au fond, c'est quelque chose qui renvoie un peu à l'enfance, non? À ce qu'on fait quand on est enfant, on dessine avec des feutres ou avec des couleurs, des crayons de couleur. Et peut-être je me sentais à l'aise avec cet outil. Emmanuel Guibert est pour moi une référence très importante, mais alors il dessine beaucoup mieux que moi. et je serais incapable de faire comme lui. J'aimerais bien, mais...
Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a vraiment ouvert qui a ouvert un champ de narration, quoi. C'est sans doute un des premiers qui, notamment avec la guerre d'Alan, qui a dit on peut arriver à raconter une histoire, même si cette histoire-là n'est pas fantastique ou héroïque, quoi, qui a fait passer en premier l'importance de la rencontre et de la confiance qu'il peut y avoir entre deux personnes, la personne qui raconte et la personne qui recueille le témoignage. En 2008 et en 2009, à Dreux, dans le cadre d'une commande, j'ai photographié la vie quotidienne de Bellevue, une résidence sociale à Doma, l'ex-Sonacotra. C'est comme ça que j'ai rencontré Abdel Slem. Mon reportage terminé, j'ai voulu le revoir. Nous avons passé des heures ensemble. Ces rencontres ont vite pris l'allure d'entretien, toujours chaleureux. Je lui demandais de me raconter sa vie.
Le bidon. Ah ça, je ne suis pas prêt de l'oublier. En 1939, avec mes parents et mes sœurs, nous vivons dans les montagnes de la province de Taja. Mon frère aîné habitait un endroit voisin. Mon père m'avait envoyé acheter le pétrole pour l'éclairage à Benila. Le souk était à une vingtaine de kilomètres de la maison et il fallait faire l'aller-retour dans la journée. Je suis berger, les longues marches je connais. En partant, j'ai salué tout le monde rapidement. Je ne pouvais imaginer ne revoir ma famille que 3 ans plus tard.
Je m'appelle Lola, je suis en première ES, du coup. J'ai 16 ans. Vous introduisez la BD et la concluez par rapport à la photographie. Ça a été quel intérêt pour vous ?
C'est-à-dire, mon premier métier, c'est photographe. Donc, de faire des photos, pour moi, c'est quelque chose de complètement naturel. Donc, dès que je vais me promener ou rencontrer quelqu'un et tout, en général, j'ai toujours un appareil avec moi. Donc, quand j'ai vu Abdel Slem, j'ai commencé à faire des photos. Après, quand il a commencé à me raconter sa vie, là, c'est plus le côté écriture qui a pris le dessus. Et arrivé à un moment donné, quand on a beaucoup travaillé avec Pierrot, qui commençait à me montrer les planches, très vite est venue l'idée que voilà, Abdel Slem devenait un personnage de bande dessinée, mais que le lecteur du coup pourrait croire que c'est un personnage fictif, et ensuite de ramener le carnet photo à la fin, et montre que c'est un personnage réel. Donc du coup, on restait vraiment dans un témoignage, et ça c'est quelque chose qui était important pour moi, parce que j'aime bien cette idée du réel. Moi, je trouve que le réel, il y a plein d'histoires dedans, il y a plein de belles choses, et la photo, cette faculté de le montrer.
Et du coup, d'où vous est venue l'envie de vous intéresser à cette période historique, à ce peuple? Et est-ce que votre projet a changé au cours de votre rencontre? Enfin, dans le sens où vous dites que c'était vraiment d'homme à homme, mais du coup, vous aviez une idée fixe en commençant à interroger Abdel Slem sur son passé, ou bien ça s'est vraiment fait totalement naturellement de A à Z?
Comme je disais, tout ça s'est fait assez naturellement. Et à un moment donné, je me suis posé la question un peu de la légitimité. C'est quoi ma légitimité pour raconter cette histoire? Puis j'en avais parlé un petit peu à Abdel Slem. Et puis un jour, j'ai dit, tout ce que j'écris, tout ce que tu me racontes, ce qui serait vraiment chouette, c'est qu'un jour, ça puisse être lu, raconté à des élèves. Et c'est lui, en fin de compte, qui a vraiment déclenché le process, quoi, parce que quand il a eu dans l'idée que ça pouvait être raconté à des jeunes, alors là, il est devenu hyper enthousiaste, quoi. C'est après, j'arrivais plus à la, c'était un débit de parole, il fallait l'arrêter, quoi. Donc ça, voilà, cette idée de transmission, ouais, c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, quoi. Moi, avec Pierrot, on est les outils qui permettent la transmission, en fin de compte, c'est lui qui vous raconte son histoire à travers nous, quoi. Et ça, je trouve que humainement, c'est vachement chouette, quoi.
Quels sont vos projets à l'avenir ?
De repartir sur une histoire avec des tirailleurs, je pense pas. De partir sur des histoires dont la vocation serait de dénoncer les injustices de l'État ou d'autres structures, c'est pas une vraie volonté. Après, voilà, c'est le propre des rencontres, hein. Souvent on les décide pas, ça arrive. Il y en a où je vais sentir qu'il peut y avoir une histoire, qu'il peut y avoir un feeling, et puis ça va peut-être amorcer autre chose. Mais je me mets pas à l'affût de tiens, il peut y avoir ça ou ça. Après, c'est un peu les hasards de la vie, hein.
Alors, j'ai une question adressée pour Alain Camp, pour Pierrot. Alors, avez-vous l'idée d'en faire un film ?
Non, parce que déjà, toi, c'est un métier que je connais pas du tout. Faire des films, c'est pas du tout mon univers. Et on en parlait hier, là, une rencontre avec d'autres élèves aussi, quand c'est comme ça, si un film devait se faire à partir du tirailleur, le schéma, ça va être de dire, voilà, il y a quelqu'un qui va prendre l'histoire, la réécrire pour le cinéma. Et quand c'est comme ça, l'auteur est obligé un peu de, comme on dit, de lâcher son bébé. Donc après, il y a un risque qui est que l'adaptation pour un film, pour le cinéma, corresponde pas à ce que, par exemple, au récit du tirailleur. Donc ça, déjà, ça m'embêterait, et ça m'embêterait d'autant plus que si, par exemple, ça devenait un film un peu polémique pour dénoncer des choses où on sent de l'agressivité ou de la violence, ce serait pas du tout en adéquation avec ce que m'a dit Abdeslam, enfin dans la qualité du rapport qu'on a eu. Et lui, c'est un homme paisible, quoi. Je voudrais pas que, à travers une adaptation, il devienne quelqu'un de rebelle ou d'aigri, parce que c'est pas lui. C'était ça, j'aurais l'impression de trahir la confiance qu'il m'a donnée, quoi.
Donc, je m'appelle Leïla, je suis en première ES2 aussi, et j'ai 16. Et moi, je voulais savoir si Abdeslam, il était au courant, enfin, de la finalité de la BD, s'il l'avait vue ou lue, et si. Et aussi, comment vous gériez le fait de plus avoir de nouvelles, du coup, si c'était dur.
Alors, le projet de livre, il était au courant. Le regret qu'il y a dans cette histoire-là, c'est qu'il ne l'a jamais vu, le tirailleur, parce qu'il habite dans un coin qui est vraiment complètement perdu. C'est beau, mais il n'y a rien. Et du coup, moi, j'avais envoyé un exemplaire. Et la poste me l'a renvoyé, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé à destination. Et après, j'ai eu quelques nouvelles, après mon voyage, là, c'était en mai 2011, j'ai eu quelques nouvelles par mail par un de ses petits-fils. Et puis au fur et à mesure, il s'est mis à plus me répondre. Et puis depuis 2012, j'ai plus aucune nouvelle. Donc voilà, et donc je pense, vu son âge, il y a des chances qu'il ne soit plus de ce monde aujourd'hui. Mais ça me rend pas triste, parce qu'il sera mort là où il avait envie de mourir, c'est-à-dire sur ces collines, là-haut, dans la montagne. Je me rappelle d'une phrase qui m'avait fait rire et vachement touché. Une fois, je lui avais dit, tu sais, un jour, je viendrai te voir. Alors, ça l'avait fait rire, justement, il me dit, mais tu sais, il n'y a rien, tu vas finir à dos de mulet, je ne vais pas te mettre sur un mulet. Je viendrai te voir un jour. Et il me dit, tu verras, là-haut, l'air sent si bon qu'on a envie de le manger. Et c'est vrai qu'il y a un soir, là, quand j'étais... On était devant sa petite maison, puis il y a l'orage qui est arrivé, donc il y a plein d'oliviers, des champs de blé, des champs d'orge. Toutes ces odeurs-là se sont mélangées, et puis là il m'a dit, tu vois, on a envie d'en manger, quoi. Donc je sais qu'il est certainement décédé dans cet endroit-là, et puis c'est la meilleure fin qui pouvait lui arriver, parce que par exemple, il avait son meilleur copain, là, qui était quelques chambres plus loin. J'ai appris il y a quelques années que lui, par contre, n'a pas pu retourner chez lui, et il est mort tout seul dans sa chambre. C'est des toutes petites chambres de 7 mètres carrés qui sont vraiment tristes. Et ça, c'est une mort terrible, quoi. En sachant aussi que de son retour était demandé un peu de courage, parce que déjà, il risquait vraiment de perdre... Enfin, c'est pas qu'il risquait, il allait perdre l'allocation du minimum vieillesse. Et puis que les histoires sont jamais tout le temps idéal et tout. C'est-à-dire que quand il est rentré, comme dans plein de familles, il y avait aussi des histoires de famille, et notamment un de ses fils, qui était assez furax que son père soit rentré, parce que du coup, il disait, mais tu te rends compte, du coup, le fait que tu rentres, c'est 400 euros de moins par mois qui vont arriver dans la famille. Et donc, à un moment donné, il y a eu une espèce de guéguerre entre le père et le fils, quoi. Donc... Mais en même temps, je crois qu'il avait pris sa décision, je mérite ça, et puis, vaille que vaille, quoi.
On peut difficilement rester insensible à l'histoire d'Abdeslam, à notre échelle de lycéens, d'étudiants. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre hommage à ces tirailleurs ?
Déjà, de penser à eux et puis de s'intéresser à leur histoire, c'est déjà une très belle réponse. Après, je veux dire, malheureusement, il y a quoi faire, c'est un peu tard, parce que sur cette génération-là, ils sont quasiment tous décédés aujourd'hui. Donc l'idée de pouvoir aller les voir, les rencontrer, ça c'est cuit, hein, c'est plus possible. Mais après, c'est vrai, c'est un peu peut-être d'entretenir une mémoire, de faire connaître cette histoire-là, et puis de penser un peu à eux, quoi. Moi, je suis persuadé, mais enfin, ça c'est vraiment un point de vue vraiment personnel. Hein. Vous savez, on parle souvent d'inconscient collectif, quoi. Et je suis persuadé que chacun, s'il se met à avoir des pensées assez positives, de penser à des oubliés ou ce qui peut aller mieux, bah, quelque part, ça doit avoir une résonance collective, quoi. Donc, dans tous les cas, même si directement, il n'y a pas moyen de leur exprimer une reconnaissance, d'y penser, c'est déjà bien.
Pensez-vous qu'Azlem a souffert de stress post-traumatique à cause de son expérience?
Sincèrement, enfin, s'il en avait, il ne les montrait pas et il n'y a rien qui laissait deviner qu'il pouvait en avoir. La marque, enfin, une chose, c'est ce qui a déclenché le récit, une trace qu'il a, c'est une cicatrice. Parce qu'un matin, j'avais été le voir plus tôt que d'habitude et il avait enlevé sa veste de pyjama. Il avait une cicatrice énorme qui partait de là et là et j'avais demandé, mais c'est quoi cette cicatrice? Il me dit, c'est quand j'étais fait prisonnier avec les Allemands. Et c'est précisément au charbonnage, c'est-à-dire que quand l'Allemand lui brûle la main, là, et ben, en fin de compte, ça s'était infecté, mais très fort, il a failli mourir. Et la cicatrice qu'il a là, en fin de compte, c'est l'incision qu'il a eue pour enlever, parce qu'il avait un abcès, ce qui m'a expliqué vraiment en gros, et il a fallu inciser. Et donc voilà, ça par contre, c'est une trace physique. Psychologiquement, j'ai jamais remarqué, voilà, il sursautait pas au moindre bruit, il y a même ce que j'ai remarqué plutôt son sourire, une faculté à rire facilement, à être un peu blagueur.
Est-ce que la BD a été éditée au Maroc?
Alors elle n'a pas été éditée là-bas, c'est la première fois qu'on me pose la question, et j'avoue que j'aurais bien aimé, mais on m'avait expliqué aussi qu'au Maghreb et notamment au Maroc, ils sont pas attachés à l'histoire comme nous on peut l'être. C'est-à-dire que bon voilà, ça a été comme ça et puis de s'en souvenir, ça va servir à quoi? Et donc peut-être que du coup il y aurait pas un lectorat pour la BD, donc il y a aucun éditeur, enfin personne n'a dit allez, on tente de faire une traduction et de la diffuser là-bas.
Bonjour messieurs dames, je m'appelle Fadiga Cheikh Souleymane. Je viens de la Côte d'Ivoire, je suis en UP2A et intégré à la classe de seconde 6. En fait, c'est ma première année en France, j'ai 17 ans et j'ai eu à lire votre BD. À la suite de votre entretien avec M. Abdeslam, le tirailleur, est-ce qu'il vous a parlé de son ami Nadim? Parce qu'on voit qu'au début vous parlez de lui, son ami Nadim, et après on n'entend plus parler.
Eh bien, figure-toi que je crois que c'est la première fois qu'on me pose la question. Et après, je crois, enfin, en tout cas, il m'en a jamais reparlé. Donc, je pense qu'à un moment donné, parce que ce copain-là a été dans le camion avec lui, et après, ils ont certainement pas été affectés dans les mêmes régiments, et puis ils sont perdus de vue, et puis peut-être qu'il est décédé sur le front. Enfin, mais après, c'est vrai que. C'est ta question est vraiment bien, parce que c'est vrai qu'il m'en a jamais reparlé.
L'autre jour, dans la CDI, bien ici, on a eu à lire certains documents où on parlait de la décristallisation des pensions. Moi, je voudrais savoir si aujourd'hui, Abdeslam, il bénéficie encore de cette revalorisation ou...
Alors, normalement, oui. Parce que quand j'ai été le voir, avant de rentrer en France, là, il m'a donné tous ses papiers. Son fils m'avait amené à Fès, parce qu'ils n'étaient pas très très loin de Fès. Donc là, il y avait ce qu'on appelle l'Institut français du Maroc. Donc j'en avais parlé au directeur. Et la secrétaire de cet institut donc, a pris contact avec le consulat du Maroc, et normalement avant de partir, de reprendre l'avion, tout son dossier était bouclé, donc normalement il a pu percevoir le reste de sa pension tout en restant chez lui.
En 1954, j'ai rendu mon uniforme. J'ai pris le commandement de ma vie de cultivateur. Chaque mois, j'ai descendu à Taza pour récupérer ma pension. C'était une petite somme qui ne permettait pas d'acheter grand-chose. Mais grâce au travail de la terre et au troupeau, on arrivait à cette sortie. Ensuite, tout a changé. Je n'ai pas compris comment c'est arrivé. La vie en montagne est devenue presque impossible.
1956, c'est la fin du protectorat de la France sur le Maroc. En Algérie éclate la guerre pour l'indépendance. Dans ce contexte, on décida d'évaluer les retraites militaires en fonction du niveau de vie du pays. Sans doute dans les bureaux de l'administration de la République, on a retenu que les soldats indigènes vivent de trois fois rien. Leurs pensions sont donc gelées et il n'est pas prévu de les réévaluer selon le coût de la vie. Partout où l'heure est à la modernité, au Maroc comme ailleurs, les jeunes quittent la campagne pour la ville. Beaucoup partent pour la France, travailler dans les usines et les chantiers. La connaissance intime de la terre, le rapport respectueux de la nature ne valent rien dans une société menée par la consommation et la croissance rapide. Les codes et les comportements ont changé. Peu à peu, Abdeslam est rattrapé par le besoin d'argent. Comment acheter tout ce que tu ne peux pas cultiver quand tu n'as pas assez d'argent ? C'est cher.